Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Cette économie qui, vous le savez, si vous écoutez cette émission particulière, est mouvante, instable, multiple. Il y a de la volatilité dans les cours de bourse, des crises économiques et financières, des rebonds, des progrès spectaculaires comme ceux de l'économie chinoise, des situations qui semblent immuables et qui finissent par évoluer, comme c'est le cas pour certaines économies africaines. Et puis, il y a une constante dans cette économie mondiale depuis 60 ans, invariablement. Madagascar est décrit dans les statistiques internationales comme l'un des pays les plus pauvres au monde, sinon le plus pauvre. Pourquoi ? C'est la question qui sera posée dans cette émission grâce à un livre qui s'appelle « L'énigme et le paradoxe », sous-titre « Économie politique de Madagascar ». C'est une publication des éditions IRD et AFD, donc IRD pour Institut de la Recherche pour le Développement, AFD pour Agence Française de Développement. Trois auteurs se sont attelés à la rédaction de ce livre, Mireille Razafinjakout, François Roubaud et Jean-Michel Vacheberger. Deux d'entre eux sont avec nous. Bonjour Mireille Razafinjakout.
Bonjour.
Bonjour François Roubaud.
Bonjour.
Mireille Razafinjakout, François Roubaud, je fais une présentation conjointe car vous êtes tous les deux économistes et tous les deux statisticiens. Vous êtes tous les deux directeurs de recherche à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, et membres d'une unité de recherche mixte UMR qui s'appelle le DIAL pour Développement, Institutions et Mondialisation. J'ajoute, Mireille Razafinjakout, que vous êtes malgache, Madagascar, d'où nous viendrons au cours de cette émission trois reportages signés des correspondantes de RFI sur place, Laetitia Bezin et Sarah Tetto. Dans l'introduction à l'énigme et le paradoxe, ce livre dont il va être question tout au long de l'émission, vous précisez que cet ouvrage est le fruit d'une longue maturation, 20 ans. Il vous a fallu 20 ans pour percer, je reprends une des expressions de ce texte, le voile d'incompréhension de la qui entoure la trajectoire malgache. Pourquoi si longtemps, François Roubaud ?
Au départ, quand je suis parti à Madagascar, où j'ai emmené Mireille d'ailleurs, qui était étudiante à l'époque, on me conseillait de ne pas aller à Madagascar, mais d'aller en Côte d'Ivoire, parce qu'il y avait vraiment un potentiel très supérieur et donc, j'ai pas partagé cet avis. Et puis, je me suis rendu compte, on est arrivé dans une période au début d'instabilité, puis ensuite de croissance à la fin des années 90. Et on s'est dit, ça y est, c'est parti. 2001, première crise. Et crise successive, ensuite celle de 2009, et on s'aperçoit qu'en fait, finalement, on comprend pas Madagascar, on parle toujours de son potentiel, tous les gens qui arrivent, même les gens qui y sont depuis longtemps, parlent du potentiel de Madagascar, et les réalisations sont exactement à l'inverse, et donc il a fallu du temps pour s'en rendre compte.
Pourquoi 20 ans, Mireille Razafinjakout?
Je sais pourquoi 20 ans. Je sais pas si c'est, il faut 20 ans forcément, mais en tout cas, la spécificité de notre approche, c'est de voir vraiment aussi ce recul sur longue période pour voir les constantes, en fait. Et on se rend compte que quand on cherche à expliquer, en fait, ce qu'on appelle donc ici l'énigme et le paradoxe malgache, il faut prendre ce recul pour voir qu'est-ce qui est, quelles sont les constantes dans le temps qui expliquent justement que cette trajectoire récessive qui a duré, qui est là sur longue période depuis l'indépendance du pays.
Alors, l'énigme, François Roubaud, c'est quoi?
L'énigme, c'est la régression continue, à quelques exceptions près qui sont justement le paradoxe. Mais si on lisse un peu la cour, Madagascar ne cesse de descendre aux enfers depuis au moins l'indépendance. Pour la période coloniale, on n'a pas de données pour pouvoir tenter de le quantifier. Et ça, c'est une énigme compte tenu de ce qu'on sait des caractéristiques de Madagascar.
Alors donnez-nous les caractéristiques de base de ce pays.
C'est un pays qui est bien doté en ressources naturelles sans en avoir trop, Donc, pour pouvoir éviter la malédiction des ressources naturelles.
Il n'y a pas de pétrole?
Il n'y a pas de pétrole, il y en a un peu, on en rêve de manière récurrente. Mais en tout cas, il n'y a pas de grosses rentes qui sont une malédiction du diamant, comme ça, de même du cacao. Alors, il y a un peu de vanille. Donc, il y a quelques petites rentes.
Il y a beaucoup de vanille, quand même.
Il y a beaucoup de vanille.
À l'échelle du marché mondial, c'est beaucoup.
À l'échelle du marché mondial, mais à l'échelle de l'économie du pays, c'est très peu. Et donc, pas beaucoup. Une unité, là, les atouts, une unité linguistique, historique, un État qui préexistait à la colonisation, tout un tas de caractéristiques, pas d'ennemis aux frontières, des ressources, j'ai dit, agricoles, naturelles, des ressources humaines plutôt positives et meilleures qu'ailleurs dans des pays comparables du continent.
C'est-à-dire des gens qui sont formés, Mireille Raza-Finchakout ?
Mais au niveau d'éducation, malgré les problèmes actuels qui ont quand même un impact justement sur le niveau d'éducation à Madagascar, quand on compare à des pays comparables, notamment africains, le niveau d'éducation à Madagascar est quand même relativement élevé, et on se rend compte sur place d'ailleurs, et les investisseurs qui viennent reconnaissent cette qualité des ressources humaines.
C'est-à-dire que la majorité des gens savent lire et écrire?
Globalement, le niveau d'éducation, ils savent plus lire et écrire que dans les pays d'Afrique continentale. Et ils sont à peu près, par exemple, le Cameroun est aussi un bon élève. Dans tous les tests de connaissances sortent en tête dans les pays francophones, le Cameroun et Madagascar, pour les mathématiques, pour ce qui concerne Madagascar, et le français aussi pour le Cameroun. Mais c'est aussi la capacité à travailler comme salarié d'entreprise. Et donc, typiquement à Madagascar, tous les pays d'Afrique, en fait, ont un régime légal d'entreprise franche, mais il n'y en a qu'un seul qui fonctionne, dans lequel il y a des entreprises. Toutes les autres entreprises franches, les zones sont vides, à part l'île Maurice, pas comparable. Et c'est à Madagascar, et en particulier, à la fois pour le coût du travail, mais aussi pour cette capacité, alors qu'est-ce que ça veut dire, il faudrait creuser, à travailler sous forme salariale et
à être à l'heure,
à faire les choses avec dextérité pour un certain nombre de travaux.
Alors, le paradoxe, c'est les crises, mais c'est aussi, malgré ses atouts, ses capacités, ses compétences, ses richesses, Mireille Raza-Finchakout, vous le dites dans le livre, que la consommation a aidé énormément, que le pouvoir d'achat est incroyablement inférieur aujourd'hui qu'il ne l'était au moment de l'indépendance en 1962. Ça a diminué de moitié. Ça veut dire quoi? Quel est le niveau de vie aujourd'hui du malgache moyen?
En termes de niveau de vie, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, après, c'est en fonction du seuil qu'on retient pour essayer de calculer l'indicateur classique de niveau de pauvreté, mais c'est de l'ordre de, si on prend le seuil de $2 à peu près par tête, il y a près de 90% de la population qui se trouve en dessous de ce seuil. Donc en termes de pauvreté, c'est extrêmement, extrêmement fort, et c'est parmi les plus forts du monde.
Concrètement, pour donner un exemple, on mange de la viande, le malgache moyen mange de la viande, éventuellement fait 3 repas par jour, mais son repas, sa diète, c'est du riz ou du manioc et de la viande une fois par semaine, des choses qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Mais je voudrais revenir sur un point, sur le paradoxe, parce que je pense qu'il n'a pas été bien énoncé encore. Le paradoxe, c'est pas les crises, c'est que à chaque fois qu'il y a une période de croissance, hein, on a décrit une régression continue, mais en fait, il y a eu à intervalles réguliers des périodes de croissance de 4-5 ans, mais à chaque fois qu'une petite période de 4-5 ans est arrivée, ça s'est soldé par une crise sociopolitique qui a tout mis à bas. Et donc, on s'attend en tant qu'économiste, période de croissance, et tout va mieux, et enfin, la spirale positive s'amorce, et en réalité, la période de croissance est systématiquement synonyme d'une crise sociopolitique, donc avec entremêlement du politique et de l'économique de manière claire.
Alors on va essayer de comprendre tout au long de cette émission pourquoi ce paradoxe. Vous évoquiez, François Roubaud, tout à l'heure, la consommation de riz, qui est un des aliments de base de la nourriture malgache. À Madagascar, 80% de la population active travaille dans le secteur agricole. Les autorités comptent d'ailleurs sur ce secteur pour sortir le pays de la pauvreté, en particulier sur la culture du riz. Un objectif a été fixé, atteindre l'autosuffisance en riz d'ici 2020. C'est un objectif ambitieux puisque Madagascar est systématiquement un gros importateur rizicole et qu'être riziculteur à Madagascar rime souvent avec pauvreté à Antananarivo. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Laetitia Bezin.
En Bouïmanarne, en périphérie d'Antananarivo, les pluies des derniers jours ont inondé les rizières de Jean Diamar.
Il y a trop d'eau dans les rizières, donc on est en train de pêcher. On attend que l'eau s'évapore pour replanter du riz.
À Madagascar, 70% des agriculteurs cultivent du riz, une culture essentiellement destinée à leur propre consommation. L'excédent alimente les marchés et les épiceries. Jean ne tire presque pas de revenus de son activité.
Le riz que je récolte, c'est pour nourrir ma famille. J'en vends quand même un peu. On fait tout à la main. J'ai 5 employés pour planter le riz, que je paye en vendant le surplus de la récolte. En fait, j'aimerais bien avoir plus de terres, mais nous n'avons pas d'aide de l'État. La seule chose que l'État fait, c'est ouvrir les canaux d'irrigation lorsqu'on commence à planter le riz.
Jean n'a qu'un hectare de rizière. Seulement 5% des agriculteurs malgaches ont une terre de plus de 4 hectares. Alors que la population augmente, la production de riz stagne. Gérard Ndjamandimbe est le directeur du syndicat des organisations agricoles.
La technique utilisée pour la plupart sont des techniques ancestrales et cette technique n'est pas bonne pour une production beaucoup plus importante. 70% des produits sont autoconsommés par le producteur. 30% sont vendus sur le marché. C'est ça qui fait nourrir les villes. Donc s'il y a une politique à faire, c'est d'aider ces producteurs-là à produire mieux. Et les politiques doivent être beaucoup plus concrètes, notamment l'accès aux semences, aux engrais, aux petits matériels, aux conseils techniques sur le terrain. C'est moins de 5% de producteurs qui ont accès à des semences de qualité.
Les autorités souhaitent en priorité augmenter les rendements et passer de 2,4 tonnes de riz par hectare aujourd'hui à au moins 3,5 tonnes, notamment en mettant en place des subventions en nature. L'idée est de mettre à disposition des riziculteurs des semences et engrais gratuitement la première année, puis les faire payer 20% la deuxième année jusqu'à ce qu'ils puissent se financer totalement grâce à leur activité. Lucien Ranirvel est le directeur général de l'agriculture au sein de ce ministère.
Ce n'est pas une utopie d'atteindre notre autosuffisance en riz d'ici 2020.
Mais est-ce qu'au sein du ministère, il y a une enveloppe dédiée à ça, à cet objectif?
Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la direction. On a une direction dotée de tous les moyens financiers, matériels, techniques et humains.
On n'a pas un chiffre?
On n'a pas le chiffre, mais je crois que nos partenaires techniques et financiers vont nous aider en complément de ce que nous pouvons déjà apporter.
L'ambition des autorités va encore plus loin. Elle projette de faire de Madagascar le grenier alimentaire de l'océan Indien d'ici 2030.
Un reportage signé Laetitia Bezin à Antananarivo. Pourquoi François Roubaud, le pays, ne parvient-il pas à assurer sa production en riz minimale?
Déjà une réaction sur le reportage, j'ai l'impression d'être renvoyé en 1995 ou 17, 20 ans en arrière, où on aurait pu dire exactement la même chose. D'ailleurs, on a fait un film, ça s'appelait Paysage de campagne, qui montrait l'état de dénuement complet des paysans abandonnés. Donc les paysans sont totalement abandonnés, atomisés sur l'ensemble du territoire. L'État est totalement absent. L'État, d'ailleurs, a joué un rôle assez négatif, en particulier sur le riz, en démantelant les grands périmètres irrigués, les infrastructures. Et donc, quand on voit les riziculteurs aujourd'hui comme hier, c'est des gens qui sont en travail avec une bêche, des techniques rudimentaires, aucun moyen pour pouvoir améliorer les productions dans une culture de subsistance. Là, on annonce des rendements de 2,4 tonnes à l'hectare. C'est probablement inférieur à 2 tonnes. En tout cas, c'est loin des 6 tonnes des paysans vietnamiens qui étaient leurs jumeaux il y a 20 ans.
Alors Mireille Razafinjakout, vous évoquez Karl Marx dans votre livre et vous comparez la situation des paysans malgaches à ceux de la France du milieu du 19e siècle. Or, de manière, dans votre livre, cette comparaison vise à montrer à quel point ces paysans malgaches sont pauvres, misérables, abandonnés. Mais j'ai presque envie de vous dire, mais les paysans français du 19e siècle étaient si pauvres, si délaissés, d'inverser un peu la comparaison. Où est-ce qu'on en est? Il y a vraiment un abandon total par la ville malgache des paysans, par l'État?
Je pense que les structures sont totalement absentes. Hein. On a fait une mission récemment là au mois d'octobre à Madagascar, dans une zone assez enclavée dans le sud. Et là, on s'est rendu compte à quel point en fait l'État, et comme François l'avait dit tout à l'heure, est totalement absent. Et donc, en termes de structure d'encadrement et d'appui à ces riziculteurs qui sont éparpillés sur tous les territoires, il est clair que tout seul, ils ne peuvent pas créer une dynamique qui peut le relier. Hein. Aujourd'hui, on parle de mondialisation, il faut qu'il y ait une demande. Les infrastructures pour aller tout simplement écouler les productions sont totalement inexistantes dans la plupart des cas. Les infrastructures
Vous dites quand même dans le livre qu'ils sont autosuffisants, qu'ils vivent en autarcie, qu'ils se suffisent à eux-mêmes.
Alors, ils vivent en autarcie de ce qui existe, mais c'est bien ce qu'on appelle peut-être une culture de subsistance. Donc, ce qu'ils peuvent produire, ils les consomment. Mais après, pour aller plus loin, pour aller développer déjà, aller plus loin pour accroître les rendements et pouvoir écouler les productions supplémentaires, ça devient déjà beaucoup plus difficile.
Éco d'ici, éco d'ailleurs. Nous parlons de Madagascar avec Mireille Razafine Jacout et François Roubaud. Alors, vous dites dans votre livre L'énigme et le paradoxe que contrairement à ce qui se passe dans beaucoup de pays africains, par exemple, il n'y a pas d'émigration rurale. C'est quand même très paradoxal, François Roubaud.
Ouais,
cette pauvreté, il reste sur place.
Donc, une des caractéristiques de notre ouvrage, et c'est comme ça qu'il faut bien le comprendre, c'est que ce qu'on décrit de Madagascar est en relatif. C'est pas forcément dans l'absolu. Par exemple, ici, s'il n'y a pas d'émigration rurale, mais il y a moins d'émigration rurale que dans les pays comparables. Et pourquoi c'est important? C'est important de dire ça parce que, comme on a dit que Madagascar avait une trajectoire unique, le seul pays au monde qui entend de paix régresse depuis 60 ans, il faut qu'on trouve des causes uniques à notre problème. Parce que souvent, quand on discute, on nous dit, par exemple, le manque d'émigration, mais c'est pas souvent invoqué, mais la corruption, je sais pourquoi Madagascar fonctionne pas, il y a une corruption endémique, et à ce moment-là, on répond, oui, mais cette corruption est-elle supérieure à celle qu'on trouve en RDC, au Bénin, en Côte d'Ivoire, etc. Et en général, on répond non. Donc, il faut qu'on trouve des causes uniques. Et alors, cette idée de l'émigration rurale, mais en fait de la mobilité géographique et sociale, est très inférieure à Madagascar à ce qu'on observe partout ailleurs.
Et alors, vous l'expliquez comment, Mireille Razafine Jacout?
Une raison, déjà, moi, je dirais, c'est en lien avec le développement des infrastructures. Quand on voit que pour faire quelques kilomètres, 200 kilomètres, des fois, il y a des périodes où déjà les zones sont totalement enclavées. Et puis, quand c'est possible, en saison sèche, par exemple, il faut 2 ou 3 jours pour parcourir quelques kilomètres. Déjà, je pense que ça, c'est un obstacle au déplacement, tout simplement, à la circulation. Circulation des informations aussi. Enfin, circulation des personnes, mais aussi des informations. La circulation des informations qui peut favoriser aussi cette mobilité. Après, on peut invoquer également des raisons peut-être plus culturelles, du fait de ce qu'on dit aussi pour Madagascar, l'attachement à la terre, qui fait qu'on est originaire d'un endroit et c'est valorisé ce fait qu'on est attaché à cet endroit-là.
François Roubaud.
Oui, il y a aussi, donc on a dit des questions physiques, de possibilités, mais il y a aussi ce qu'on Mireille a dit, un peu les structures mentales. Donc à Madagascar, il y a un système de valeurs qui fait qu'il y a un certain fatalisme à accepter son destin. Et en même temps, il faut dire aussi que Madagascar est un beau pays. On est bien sur sa terre et c'est fondamental d'y rester et d'y être enterré de génération en génération. Donc c'est peut-être aussi des facteurs qui retardent cette mobilité et en particulier la mobilité sociale où chacun a sa place dans des structures héritées du passé.
Oui, quand on naît paysan pauvre à Madagascar, on meurt paysan pauvre.
En toute probabilité, beaucoup plus qu'ailleurs.
Mireille Razafine Jacout, vous êtes issu de quel milieu?
Moi, je viens de la capitale.
Et donc, c'est un atout?
C'est clairement un atout. Et ça, c'est aussi une des caractéristiques de Madagascar, cet énorme clivage entre le milieu urbain et le milieu rural. Et je dirais encore plus entre la capitale et le reste du pays. Il y a une égalité, il y a un clivage extrême, où c'est deux mondes totalement différents.
Et le fait d'être femme à Madagascar, est-ce que c'est un atout, un handicap fort?
Je pense que, on peut parler, il y a certainement des inégalités, mais relativement encore, parce que tout notre travail, c'est d'essayer justement de comparer à des pays comparables. Je pense qu'à Madagascar, il y a quand même, les femmes ont un rôle qui est, alors j'ai pas les chiffres là, mais en termes de représentation au niveau, par exemple, de la fonction publique, au niveau de certaines institutions, il y a un nombre quand même assez, non négligeable de femmes qui jouent des rôles.
Eh bien, nous continuons cette conversation avec vous deux, Mireille Razafine Jacout, François robots au sujet de Madagascar, de votre livre L'énigme et le paradoxe, dans quelques minutes après un flash d'actualité. À tout de suite.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent dans cette deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Nous continuons à parler de Madagascar autour du livre L'énigme et le paradoxe, économie politique de Madagascar, aux éditions IRD et AFD, avec deux des trois auteurs de ce livre, Mireille Razafidjakout et François Roubaud. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons vu que la production de riz ne répondait pas à la demande. Nous avons évoqué la situation critique des producteurs de riz, des paysans malgaches et de cette population agricole qui constitue 80% de la démographie nationale. On disait aussi dans la première partie que la mobilité sociale est très faible. Quand on est paysan pauvre à Madagascar, on meurt dans ce même état. Mais qui peuple les villes de Madagascar ?
Donc là, on est en train de remonter la structure sociale en partant du bas, les paysans épars sur le territoire. Et donc dans les villes, grossièrement, on a deux classes sociales, entre guillemets. En tout cas, c'est comme ça qu'on les a stylisées. L'immense majorité, c'est des informels urbains. Donc qui vivent de petits métiers, moto-taxi, réparateurs, vendeurs de toutes sortes de produits, de première et de seconde main. Et puis, un reste de classe moyenne déclassée, en particulier des fonctionnaires, nos homologues, les chercheurs par exemple, ou les professeurs d'université. Et puis tout en haut, mais alors vraiment des grains de sable en termes de nombre, une élite et hyper élite qui se compte en centaines ou en milliers et qui vit très très loin du monde.
On parlera d'eux un peu plus tard, mais ce lumpen prolétariat, en fait, on peut employer ce mot, ces informels que vous décrivez, comment se nourrissent-ils ? Vous disiez que les paysans étaient complètement isolés, mais il y a quand même des circuits commerciaux, j'imagine, entre les villes et les campagnes pour approvisionner les villes. Comment fonctionnent ces réseaux ?
Lumpen prolétariat, ça colle pas parce qu'ils sont la majorité. Et donc, c'est une économie qui est monétarisée, qui recycle d'ailleurs. Et donc, il y a un circuit économique qui mêle formel et informel. Ils vivent chichement de recyclage de choses. Il y a des choses extraordinaires aussi qui se passent dans l'informel.
Mireille Razafidjakout, est-ce que les différences de richesse se réduisent ou est-ce que c'est immuable? Il y a cette masse de paysans pauvres, on disait 80%, ces informels. Est-ce que cette structuration de la société malgache au fil des années évolue ou est-ce que c'est toujours la même?
Globalement, ce qu'on constate, c'est que elle a quasiment pas changé, hein. Autour de 80% de la population vit dans le milieu rural. Il y a le secteur informel urbain qui va constituer autour de 15% de la population. Il y a cette classe moyenne qu'on va situer autour de 8%. Et puis tout en haut, voilà les élites qui 0,1% de la population.
Et François Roubaud, est-ce que c'est une des explications du paradoxe? C'est-à-dire que chaque fois que ça va mieux, il y a une crise. Pourquoi?
L'élite tout en haut se maintient à un niveau. Peut-être les paysans qui sont au niveau de subsistance en deçà duquel on meurt, mais ceux qui c'était la classe moyenne et même les informels, la décroissance du PIB, les 50% de moins dont vous avez parlé, ils le vivent. Donc il y a bien, l'écart se creuse entre le haut et le bas de la pyramide.
Mais alors, est-ce que cela explique cette évolution, cet appauvrissement, le paradoxe que vous décrivez dans ce livre? Comment faire le lien entre les deux?
Donc le paradoxe, il y a ce potentiel de Madagascar s'exprime, et même de manière plus réussie que dans d'autres pays, mais dès qu'il y a cette phase de croissance, il y a un accaparement complet des fruits de cette croissance par l'élite tout en haut et le clan présidentiel au premier chef, et les aspirations aussi bien économiques des gens qui sentent la respiration mais n'en voient pas la couleur ou de manière très marginale, mais aussi les aspirations de gouvernance, par exemple la corruption débridée, il y a des ressources, ou les aspirations démocratiques s'expriment au moment où la croissance repart, et à ce moment-là, des élites ou des groupes d'élites qui étaient un peu marginalisés les surf sur cette vague de mécontentement pour essayer de déstabiliser le pouvoir en place.
Alors, oui, Mireille Razafine,
pour compléter un peu ce qu'a dit François et pour dire aussi que je suis pas d'accord, mais en fait, on est d'accord. Pour dire qu'on est d'accord, c'est que moi, j'insistais sur la structure de cette société. Effectivement, les inégalités entre ces différentes strates, justement, ont bougé. Mais cette structure sociale semble être la même depuis plusieurs décennies. Et justement, cette structure pyramidale est en particulier, est-ce qu'on insiste sur ce fait dans notre livre, c'est que cette structure sociale pyramidale avec des inégalités extrêmement fortes et une segmentation entre ces différentes strates, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien en fait entre les différentes strates, est en particulier source d'instabilité politique au niveau du pays.
Et c'est aussi, Mireille Razafine-Jacout, source d'insécurité et de violence. C'est l'une des manifestations de ce malaise malgache, kidnapping quotidien, vol en bottes organisées, la généralisation de l'insécurité dans les grandes villes comme à la campagne fragilise cette économie déjà ô combien fragile. Pour l'instant, les mesures prises par l'État ne montrent pas de résultats. Alors, de son côté, la société s'organise. Lundi dernier, secteur privé, syndicats de travailleurs et sociétés civiles se sont regroupés au sein d'une plateforme pour dénoncer cette situation et pour proposer des solutions. Une trentaine d'acteurs majeurs unis contre un fléau national, c'était même une première dans ce pays. Et c'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Sarah Teto à Antananarivo.
La problématique de l'insécurité est une problématique qui traverse en fait tous les secteurs de l'économie de Madagascar et toutes les couches sociales sont concernées aujourd'hui.
Le ton est donné. Pour Nouran Djamamounzarisson, la présidente du groupement des entreprises de Madagascar et membre de la nouvelle plateforme de contestation contre l'insécurité, l'incidence sur l'économie du pays est réelle, mais encore mal évaluée.
Malheureusement, on n'a pas de statistiques qui nous permettent aujourd'hui. Mais il est évident qu'au niveau macro, il y a déjà tout le manque à gagner en termes d'investisseurs qui ne viennent pas. Et au niveau microéconomique, il y a tous les arrêts de travail qui sont occasionnés par l'insécurité parce qu'il y a beaucoup de travailleurs qui prennent l'autobus ou qui vont à pied au travail, qui sont attaqués, qui sont même blessés. Donc je pense que si on faisait le calcul de tout cela, ça doit représenter quand même maintenant une charge importante sur le PIB.
Même inquiétude chez le vice-président de la Confédération du tourisme de Madagascar, Lita Razafmaev.
Le tourisme à Madagascar fait partie des secteurs prioritaires qui emploient indirectement 600 000 personnes et qui implique dans le PIB de Madagascar à hauteur de 5 à 10%. Ce qui fait que le tourisme a une position très stratégique dans le développement du pays. Si l'insécurité continue à être grandissante, les touristes vont être réticents à venir à Madagascar. Et ça va avoir un impact énorme sur l'économie du pays.
Mais les premières victimes de cette insécurité aujourd'hui, ce sont bel et bien les Malgaches et pas forcément les plus nantis. Certes, les enlèvements de Français d'origine indienne marquent les esprits tant par le mode opératoire violent des bandits que par les rançons de plusieurs millions d'euros qu'ils réclament. Mais en brousse, les voleurs de zébus terrorisent eux aussi la population par leurs agissements. C'est ce qu'explique Lilia Ravouniarsou, la représentante de la Fédération des femmes rurales à Madagascar.
Il y a des villages où il n'y a plus de bœufs et les dalles arrivent et il fait le kidnapping des enfants pour presser les familles de donner de l'argent. Ça, c'est quelque chose de nouveau.
Face à toutes ces formes d'insécurité, la plateforme souhaite convaincre les autorités d'organiser des assises nationales sur le sujet où les différentes composantes du mouvement pourront exposer tous les problèmes et présenter des solutions, leurs solutions. Mais avant cela, il faut mobiliser largement. La plateforme appelle donc les Malgaches de toute l'île à faire du bruit le 15 mars prochain entre midi et midi 5. Casseroles, cloches, sirènes, klaxons, cris, tous les moyens seront bons pour interpeller les autorités. L'ambition est grande, mais réalisable devant le ras-le-bol généralisé de la population. Oxai, ça suffit en malgache, pourrait bientôt devenir le slogan d'une contestation nationale.
Un reportage signé Sarah Teto à Antananarivo. Nous parlons du livre L'énigme et le paradoxe avec François Roubaud et Mireille Razafine-Jacout, deux des auteurs. Vous me montriez un texte, François Roubaud, pendant ce reportage que vous avez écrit, consacré à la violence politique et à l'insécurité. On kidnappe des gens riches, on peut comprendre, à l'extrême limite, mais voler des zébus, s'en prendre à des enfants...
Tout peut pas être mis sur le même plan d'abord, parce que voler des zébus, c'est quelque chose qui est dans la tradition malgache, en partie dans le sud, depuis tout temps. Là, les dahals, ces fameux voleurs de zébus, c'est un phénomène social qui prend de l'ampleur. Mais il y a quand même une chose à dire. En réalité, même si on voit monter des phénomènes d'insécurité, paradoxalement, L'insécurité à Madagascar est très inférieure à celle qu'on peut observer dans la plupart des pays continentaux. Par contre, il y a un sentiment d'insécurité d'une extrême à Madagascar.
Mirai Razafine Jakout, ce sentiment d'insécurité, il est lié à l'instabilité économique, aux inégalités, à quoi est-il dû ?
C'est un pays, ce qu'on voit, hein, on est parti d'un niveau extrêmement faible d'insécurité quand même comparé à d'autres pays, à Madagascar. Donc forcément, quand l'insécurité augmente, ça va créer... Et compte tenu du fait que le pays se caractérise par ce tabou de la violence, on n'aime pas tout ce qui est, et on le constate d'ailleurs, hein, enfin, il y a un phénomène assez intéressant, quand on a fait des enquêtes, c'est que alors que, quand on compare le niveau réel d'insécurité et on compare les différents pays africains sur lesquels on a exactement les mêmes données, le niveau est globalement en général assez inférieur comparé à un certain nombre de pays. Alors que quand on met en parallèle le sentiment d'insécurité à Madagascar est extrêmement forte si on le met en regard au niveau réel d'insécurité qui existe dans le pays. Donc il y a vraiment un tabou de la violence qui est là et qui est effectivement en lien en fait au fait que initialement il y a en fait une forte montée de l'insécurité, mais qui part d'un niveau relativement bas.
Oui.
Et deuxièmement, effectivement, ce fait qu'il y a une inégalité, en fait, il y a un équilibre instable qui rend d'un côté les nantis très sensibles à tout ce qui pourrait justement remettre en cause cet ordre, cette hiérarchie, cette extrême inégalité extrêmement forte. Et de l'autre côté, il y a l'atomisation de la population, la population qui se sent totalement en fait démunie, qui les rend aussi totalement accroît aussi ce sentiment d'insécurité. Donc c'est ce qui se passe au niveau rural où justement les paysans se sentent délaissés totalement par les pouvoirs publics et évidemment devant des bandes organisées, parce que maintenant les DAAL c'est des bandes organisées, tout un système organisé qui part d'un niveau assez centralisé même, et donc ils se sentent totalement démunis face à ça, et donc le sentiment d'insécurité est extrême.
François Roubaud, vous réagissiez, le statisticien que vous êtes réagissait tout à l'heure en entendant le reportage de Sarah Teto, une des personnes interviewées, dire on n'a pas de chiffres, on n'a pas de statistiques. Vous, comment est-ce que vous avez travaillé, puisque dans ce genre de pays, l'appareil statistique est par définition assez faible, assez léger. Comment est-ce que vous avez travaillé pour ce livre ?
Donc c'est justement une des particularités des fameux 20 ans là pour pouvoir construire. Donc on est économiste, mais on est aussi statisticien, avec la particularité de dire on va pas attendre que des données et des chiffres pour pouvoir analyser un phénomène. À partir du moment où il est important, on va essayer de le mesurer. Et ça a été le cas en particulier à Madagascar sur deux domaines considérés comme immesurables avant. La question de l'économie informelle, qui est un de nos thèmes de spécialité, pour lesquels on a plus de données sur l'informel aujourd'hui que sur le formel, et l'autre côté, sur la question de la gouvernance, de la paix et la sécurité, où on a démarré à Madagascar des enquêtes avec l'Institut de la Statistique, et ces enquêtes, aujourd'hui, elles sont en train de se généraliser, elles ont été adoptées au niveau africain, pour tous les pays du continent, mais même dans le cadre des objectifs du développement durable, en particulier le numéro 16 sur la gouvernance, elles sont en train, et l'INSEE, par exemple, va commencer à faire des enquêtes sur la corruption. Donc on a mesuré sur longue période, et c'est un des caractéristiques de cet ouvrage, on a des séries, et donc je dis à la dame du reportage, venez à l'Institut de la Statistique, venez nous voir, et on vous donnera des chiffres qui permet de relativiser les choses, même si la situation se tend de manière claire.
Alors, Éco d'ici, Éco d'ailleurs, nous parlons de Madagascar avec Mireille Razafine Jakout et François Roubaud autour de leur livre « L'énigme et le paradoxe ». L'un des aspects les plus communs de cette pauvreté que vous décrivez à longueur de page dans ce livre, c'est le chômage, qui frappe en particulier les jeunes. Officiellement, le chômage des jeunes entre 18 et 29 ans est de 11%, mais dans la réalité, c'est beaucoup plus. Qu'ils aient fait des études ou non, cette classe d'âge est frappée. Chaque année, 500 000 jeunes diplômés malgaches arrivent sur le marché du travail. C'est un chiffre considérable. Et leur insertion est de plus en plus difficile. Un reportage Éco d'ici, Éco d'ailleurs, signé Laetitia Bezin à Antananarivo.
Cela fait 3 ans que Lou va quitter les bancs de l'université, mais elle occupe toujours sa chambre d'étudiante. À 28 ans, elle est diplômée d'un master en anthropologie.
C'est très dur, en fait, parce que d'abord, j'ai pas d'expérience. Aussi, il n'y a pas trop de débouchés quand il s'agit des études de l'anthropologie. Et puis, il y a aussi cette histoire de payer de l'argent pour avoir une place, par exemple, au sein de quelconque ministère. Mais quand même, cela ne m'a pas empêché de déposer quelques CV partout dans les ONG ou bien au ministère, mais ça n'a pas abouti en quelque chose. J'ai été obligée d'accumuler des petits boulots comme animatrice, réceptionniste. C'est vraiment très très difficile, mais j'essaie de lire dans les journaux s'il y a des offres d'emploi. Je baisse pas les bras en fait.
Faute de structures publiques pour accompagner ces jeunes au chômage, des initiatives venant du privé voient le jour. Le groupement du patronat malgache accompagne techniquement et financièrement les jeunes qui veulent créer leur entreprise pour que celle-ci soit viable sur le long terme. Avec l'aide du Bureau international du travail, il a pris sous son aile 37 start-up. Maya, 27 ans, étudiant en master 2 en macroéconomie, mais aussi à la tête d'une petite entreprise d'événementiel, bénéficie de ce programme.
En fait, j'ai pu constater, surtout au sein de l'université, quand on arrive, que le seul fait d'étudier ne suffisait plus en ce moment. Parce que vu que l'on dépense à peu près 5 ans à l'université, puis après les 5 ans, on va chercher encore du boulot. Donc, pour assurer la transition entre le monde professionnel et le monde académique, donc j'ai décidé de franchir le pas pour vraiment entreprendre.
Min Anjamidzour est le président de la commission jeunes et entrepreneuriat du groupement du patronat malgache.
La création d'entreprises est une alternative face au taux de chômage qui est très élevé à Madagascar. Le problème, en fait, c'est qu'il y a une inadéquation entre la formation et le besoin du marché du travail. Du coup, il y a de plus en plus de jeunes qui veulent se lancer dans la création d'entreprises. Tout est à refaire à Madagascar. Il n'y a pas encore de secteur qui soit saturé, que ce soit le tourisme, l'agriculture, tout ce qui est informatique. Peu importe, donc c'est un marché énorme, mais c'est à nous de trouver des opportunités, de se bouger.
Si les opportunités sont nombreuses, le coût pour formaliser son entreprise est rédhibitoire pour de nombreux jeunes. 450 000 ariars, soit 120 euros, une fortune à Madagascar.
Un reportage Antananarive signé Laetitia Bezin, Mireille Razafinjakout. On relève des expressions qui semblent familières si on a écouté cette émission depuis le début. Faute de structure publique, tout est à refaire, tout est à faire. Alors il y a de l'espoir d'un côté, mais en même temps, c'est peut-être aussi une énigme, un paradoxe. Cet espoir ne semble déboucher sur rien.
Oui, donc on revient toujours peut-être à ce paradoxe, un autre, pas celui qu'on évoquait, qu'on met principalement au centre de notre ouvrage, mais l'idée qu'à Madagascar, il y a des opportunités, et moi je suis prête à le reconnaître qu'effectivement il y a des opportunités à mettre en avant et à les développer. À chaque fois qu'on y voit, on voit le dynamisme d'un certain nombre de personnes, de jeunes qui se lancent dans des nouveaux créneaux, et on voit que ça marche. À côté de ça, il faut regarder de manière macroéconomique, en fait, la structure générale du marché du travail à Madagascar, et comme dans beaucoup de pays justement comparables d'ailleurs, quand on regarde cette structure, on voit que évidemment, vu le poids actuel de ce qu'on peut appeler là le secteur formel, donc le secteur public, donc les ministères, etc., mais aussi le secteur privé formel, donc ces entreprises qui peuvent embaucher, et ça représente une très faible part, évidemment, donc du marché du travail, et donc qui ne peut pas absorber en tant que tel, pour l'instant, les nouveaux arrivants sur le marché du travail, d'où ce hiatus entre l'offre et la demande qu'il y a aujourd'hui. Donc il y a quelque chose à faire pour encourager des initiatives, l'initiative au niveau du secteur formel privé pour que sa taille augmente, pour pouvoir absorber plus de main-d'œuvre, mais aussi au niveau de ce qu'on appelle le secteur informel, il y a quelque chose à appuyer parce que avant tout, en fait, la grosse majorité quand même de ces gens, et là on parle plutôt dans ce reportage, plutôt des gens déjà qui sortent de l'université, donc c'est la frange quand même qualifiée un peu haute, mais il y a une grosse masse de la population qui n'arrive pas au niveau universitaire, qui vont se retrouver dans une situation totalement précaire au niveau du marché du travail informel.
Les mots les plus durs, François Roubaud, dans ce livre, l'énigme et le paradoxe, vous les réservez aux élites malgaches, on en a déjà un peu parlé, vous les décrivez comme accaparant les richesses, coupées du peuple. Ces élites, c'est qui ?
Ben, les élites, y a toute une discussion autour. On a pris les gens qui avaient un pouvoir sur la trajectoire de Madagascar dans différents domaines, politiques, économiques, religieux, les forces armées, etc. Et donc, dans bien des cas, alors faut pas être caricatural, même si on dit les élites, et les élites sont aussi diverses, et à l'intérieur des élites, il y a des fractions progressistes des élites, ou des fractions sur lesquelles s'appuyaient pour pouvoir essayer de sortir de Madagascar de l'ornière. Mais globalement, c'est quand même un tout petit monde de l'entre-soi et qui vivent finalement relativement bien dans un pays qui s'enfonce et donc qui s'éloigne de plus en plus du reste de la population.
Mais quel rôle jouent ces élites qui accaparent les rentes, qui sont au cœur de l'économie malgache, dans l'instabilité politique que vous dénoncez lors des périodes de croissance?
Ouais, la structure, si on veut aller très vite, il y a le président et son clan, qui, en gros, en anglais, winners take all, accapare quasiment tout, laisse quand même de la place à un groupe élitaire. En fait, quand on parle d'élite, on parle d'hyper-élite. Hein. On est en train de parler de environ 10 à 15 000 personnes sur un pays de 25 millions d'habitants, c'est-à-dire moins de 0,1% de la population. Ils vivent en dessous. Et certains de juste en dessous de ce clan qui s'enrichit à une vitesse incroyable, de manière prédatrice, et au bout d'un moment, ça génère des jalousies, en particulier quand il y a cette phase de croissance. Et là, comme je le disais tout à l'heure, certaines fractions utilisent, surfent sur le mécontentement populaire pour déstabiliser le régime en profitant du fait, justement, du tabou de la violence dont on a parlé tout à l'heure. C'est qu'avec quelques dizaines de gens à pointer, on peut déstabiliser le régime malgache.
Alors, la volonté de progresser, de rénover, d'améliorer le pays, de faire fructifier ces richesses du sous-sol et du sol, elle ne date pas d'hier. Au début des années 70, Madagascar est gouverné par un gouvernement technico-militaire qui tente de s'émanciper, écrivez-vous dans votre livre, de la présence étrangère. Écoutez à ce sujet cet extrait du journal de 19h de France Inter, le 28 juin 1973. Celui qui n'était encore alors que ministre des Affaires étrangères malgache, Didier Ratsirak, disait ce qu'il attendait de la sortie de son pays de la zone franc.
Nous pensions décoloniser entièrement les relations franco-malgaches pour repartir sur des bases nouvelles dans l'amitié et l'entente. Il y a toutes les structures de notre commerce, de notre économie, par exemple, qui sont encore des structures néocoloniales. On exploite nos mines et on embarque, on exporte vers l'extérieur les minerais sans qu'il y ait la moindre valeur ajoutée qui puisse rester sur place. Au lieu d'exporter des produits semi-finis ou semi-ouvrés, comme on voudra l'appeler, on exporte la matière première brute. Ça, c'est colonial ou néocolonial. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous entendons bien maîtriser toutes les structures économiques et commerciales de notre pays.
François Roubaud, vous réagissiez vivement en entendant cet extrait sonore de Didier Ratsirak.
Un extrait avec une voix d'un jeune qui parle particulièrement bien. Et en plus, on ne peut que dire que le diagnostic est toujours correct. C'est ce qui a été fait de ce diagnostic qui a posé problème.
Il y a des acteurs dont on n'a pas encore parlé, mais qui sont quand même très présents dans votre livre. Ce sont les puissances étrangères, les bailleurs de fonds, Mireille et Razafine Jakout. Quel est leur rôle dans la situation malgache? Est-ce que le FMI, la Banque mondiale sont très présents et aident beaucoup, ont beaucoup aidé Madagascar au cours des décennies passées à sortir ou à tenter de sortir de cette spirale négative?
Il est clair que effectivement, il y a des acteurs extérieurs qui jouent un rôle important à Madagascar, hein, en termes d'aide extérieure, le poids dans le budget de l'État, etc. Il y a des points effectivement positifs dans les politiques qui sont mises en œuvre, l'accompagnement des politiques. Après, ce qu'il faut dire, c'est que il y a aussi ce qu'on peut constater, et pas particulier au cas de Madagascar, c'est que les politiques effectivement qui ont été mises en œuvre, notamment dans le temps, au moment de l'ajustement structurel, n'étaient pas particulièrement adaptées et ont pu avoir aussi des impacts négatifs sur le pays en général.
Je trouve très modéré là, parce que dans le livre, vous êtes beaucoup plus franc du collier et vous parlez quasiment de la perversité, François Roubaud, de la position de ces bailleurs de fonds.
Perversité, là, on est dans le règne du diabolique. Là, je pense pas que ce soit ça, mais effectivement, il y a une contradiction majeure et Est-ce qu'elle est pensée ou calculée? Très clairement, prenons le cas d'une crise, pendant la dernière crise, 2009, Madagascar est mis sous sanction. C'est tout à fait normal, puisqu'il y a une prise de pouvoir, un coup d'État. Mais en même temps, qui paye les pots cassés? C'est les populations qui sont doublement sanctionnées, sanctionnées par leurs propres autorités illégitimes qui prennent le pouvoir, et sanctionnées par les bailleurs de fonds, plus de ressources pour pouvoir essayer d'en sortir.
Donc, on approche, François Roubaud, de la fin de cette émission. Je voudrais citer les dernières lignes de votre livre, que je trouve pleines d'émotions. Vous appelez de vos voeux un processus de reconstruction, de renaissance, pour que Madagascar échappe à ce destin de pays qui tombe au ralenti, sans bruit, et se regarde tomber dans l'indifférence générale. Ce processus viendrait, dites-vous, mettre un terme à des décennies d'humiliation résultant de la divergence entre la trajectoire économique et sociale dramatique depuis l'indépendance. Et encore quelques mots. C'est de l'émotion, là, ce qui transparaît.
C'est de l'émotion, tout à fait, puisqu'on est lié à Madagascar et que on est chercheur, bien sûr. On essaye d'objectiver tout ce qu'on écrit dans le livre, mais on a envie aussi d'agir pour le développement de Madagascar, que nos résultats servent à quelque chose. Et donc voilà, donc on s'est fixé une feuille de route aussi de comment essayer d'agir à notre échelle, modeste échelle de chercheur, pour pouvoir contribuer à ce redressement.
De l'émotion, Mireille.
Oui, bien sûr. Venant de Madagascar, forcément, il y a aussi de l'engagement. On est un chercheur, on cherche à s'engager dans ce qu'on fait et ne pas s'arrêter juste sur le constat négatif, mais dire aussi qu'il y a toujours les moyens d'inverser au moins la courbe et de lancer quelque chose de positif compte tenu des opportunités et des atouts qui existent quand même dans le cas de ce pays.
Merci Mireille Razafine-Jacout, merci François Roubaud d'être venu nous parler de votre livre « L'énigme et le paradoxe, économie politique de Madagascar » aux éditions IRD et AFD. Les données de ce livre sont sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, à la page de l'émission Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI.